bouche à oreille. Une émission de la rédaction de RVM.
Bonjour les auditeurs de RVM, vous êtes bien dans le bouche à oreille, le numéro 364. Aujourd'hui, nous allons parler du donjon de V et de l'exposition de cabane d'architectes, donc qui a commencé le 4 juin et se terminera le 30 octobre 2022. Et pour nous présenter le donjon et les cabanes, nous sommes en insert téléphonique avec monsieur Francis Briès. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous m'entendez bien, ça va ?
Oui, très bien, je suis ravi de vous entendre.
Super. Mais écoutez, je vais vous présenter l'équipe avec qui je fais l'émission aujourd'hui. Donc nous avons Luc à la technique. Bonjour Luc.
Il fait un signe de la main, comme
notre marsouin, voilà.
Il ne parle que de la main.
Et là, et André, notre historien local, fan du donjon de V. Bonsoir.
Je suis fan du donjon de V, mais je ne suis pas un spécialiste de l'histoire, quand même.
Voilà. Moi, je suis un peu plus spécialiste de l'histoire, entre guillemets, moderne. L'histoire ancienne, je la connais un petit peu, mais pas autant que je le souhaiterais.
Eh bien, écoutez, on va prendre un petit peu de temps pour faire connaissance avec le donjon de V, puis avec vous, bien sûr. Donc, les auditeurs, il y a le Facebook de RVMFM et le mail auditeur au pluriel, @rvmfm.com, si vous voulez avoir plus d'infos sur le donjon de V et poser des questions. Nous transmettrons. Monsieur Briès, pouvez-vous vous présenter tout d'abord, avant de parler du donjon de V ?
Simplement, me présenter, c'est beaucoup dire. J'organise, dans le cadre de ce donjon, depuis 1993, des expositions dites culturelles, à savoir les plus grands artistes du XXe siècle, que sont Miro, Dubuffet et bien d'autres. Et j'ai également comme activité de vente aux enchères, où j'ai dirigé pendant un certain nombre d'années une maison de vente qui s'appelle Arcurial. Et maintenant, je continue évidemment à travailler également dans cette maison qui a à peu près une vingtaine de spécialités entre les arts modernes, les arts anciens, les automobiles de collection, les montres anciennes, enfin, à peu près une vingtaine de spécialités. Voilà un petit peu ce que je fais.
On peut dire aussi, monsieur Francis Briest, que vous êtes le propriétaire du donjon de V.
Oui, maintenant, c'est une propriété qui est devenue familiale. Et effectivement, c'est une indivision familiale. Et c'est vrai que c'est un endroit qui a été acquis il y a déjà plus d'une trentaine d'années, avec pour mission et objectif de allier, mélanger, faire découvrir, évidemment, l'art ancien, pas l'art ancien, mais l'architecture ancienne, hein, parce qu'on est dans le cadre d'une architecture qui est du 12e, 13e, voire 14e siècle, et le mélanger et l'associer surtout avec l'art du 20e siècle, c'est-à-dire celui que nous regardons, celui que nous vivons, et avec lequel nous vivons, et qui, nous l'espérons, sera encore en place dans quelques années.
Alors, on peut situer V ?
Alors V, oui, effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, on appelle le donjon de V. S'écrit V-E-Z, V voulant dire, en latin, c'est écrit V-E, petit gué, c'est un petit gué, en fait c'est une petite rivière qui s'appelle l'Automne, qui part de Villers-Cotterêts pour ruisseler sur 30 km, donc nous sommes à 7 km de Villers-Cotterêts et à peu près une dizaine de kilomètres de Crépy-en-Valois, qui était évidemment un centre historique merveilleux, et de Pierrefonds. Voilà à peu près le triangle dans lequel nous sommes. Et ce qui est intéressant également, c'est de savoir que ce lieu a été construit pour se défendre des invasions, soit des Anglais, soit des Bourguignons. Il y avait cette ligne de défense entre Montépilloy, Pierrefonds, V et les autres châteaux forts qui forment pratiquement une ligne de défense. Et cela a permis effectivement au roi de France et tous ces rois qui sont passés, évidemment, soit à Villers-Cotterêts, soit à V, soit à Pierrefonds, de constituer ce qu'on appelle le socle de l'histoire française.
C'était au départ une propriété du roi personnel, le château de
Vay. Oui, alors il y a eu, évidemment, ça a été construit, oh, je crois, après ce qu'on appelle les invasions barbares, c'est-à-dire à partir du 4e voire 5e siècle, parce que de l'an 0 au 5e siècle, vous savez que l'Empire romain allait jusqu'à nous, c'est-à-dire que là, et pour aller un tout petit peu plus loin, et puis évidemment, avec l'Empire romain qui a été et a été réduit pratiquement à zéro, les invasions barbares sont arrivées. Ce qu'on appelle les invasions barbares, c'est-à-dire les invasions qui viennent du centre de l'Europe pour s'installer avec différentes peuplades, raison pour laquelle on a une France qui est toute très, très mixte et qui est formidable d'ailleurs pour cette raison-là. Et c'est à partir du 4e siècle. Et à partir du 5e siècle, 6e siècle, V a commencé à être une espèce de plateforme, de place forte, pardon. Cette place forte s'est largement développée au 9e, 10e siècle et effectivement après la construction et les constructions qui étaient plutôt à l'époque en bois, dès qu'on a pu construire en dur avec des pierres qui ont été extraites directement du village de V et des alentours, parce qu'il y a des carrières de pierres qui ont servi à construire tous nos villages et à construire également ce type de place forte. Et à partir de 1214, ce lieu, ce château, s'appelait le château de Vay, a été échu par succession au roi de France, c'est-à-dire à Philippe Auguste. Philippe Auguste, en 1214, se bat à Bouvines, et là, il veut anoblir un homme d'armes, c'est-à-dire selon son général, aujourd'hui on dirait un général, alors qu'à l'époque on n'appelait pas ça, on n'appelait pas ce personnage général, et bien il a voulu l'anoblir, il lui a donné la terre de Vay, ce qu'on appelle la terre, et son nom, qui était un nom tout à fait classique, était Duchemin, a été transformé en Destrée, et cette fameuse famille qui a fait beaucoup parler d'elle, surtout sous François Ier, c'est-à-dire deux siècles après, est né à cet endroit, c'est-à-dire au château et maintenant au donjon de Vay.
D'ailleurs, le nom de Vay, c'est l'origine du Valois, c'est ça?
Oui, alors il faut savoir que le Valois est toute notre région, peut-être sur une cinquantaine, voire 80 kilomètres, c'est une région extrêmement riche en patrimoine évidemment construit, tant en termes d'églises qu'en termes de maisons historiques, qu'en termes de châteaux, parce qu'effectivement, les rois de France qui se faisaient sacrer à Reims, passant ensuite par Villers-Cotterêts, et s'installaient généralement à Paris en faisant ce chemin de Reims, Soissons, Villers-Cotterêts, et évidemment Vay. Et Vay a été capitale du Valois pendant à peu près 5 siècles. Et vous savez que pour devenir une capitale, il fallait avoir des reliques. Et les reliques sont passées de Vay ensuite à Crépy-en-Valois, donc dans le siècle suivant.
Et alors, depuis 1993, vous organisez donc des expositions. Je pense que beaucoup de gens, beaucoup de nos auditeurs connaissent justement le donjon de Vay par ses expositions, puisqu'effectivement, on a vu à peu près, je dirais, le nec plus ultra de ce qui se fait en sculpture.
Oui, tout à fait. Et depuis l'an dernier, alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a eu à peu près de 1993 à 2020 une vingtaine d'expositions, au moins 20-30 expositions, avec, comme je disais en introduction, pratiquement tous les artistes qui aujourd'hui sont dans les grands musées évidemment français ou dans les musées mondiaux. Et donc ça a permis de donner un panorama essentiellement de la sculpture et non pas des tableaux, parce que nos expositions sont plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, compte tenu du peu de murs que nous avons. Et donc ça permet de voir un segment particulier de la création artistique. Et ce qui est intéressant également, c'est que depuis 2 ans, on ouvre au public avec une petite visite guidée du rez-de-chaussée du donjon et ainsi que le premier étage. Le rez-de-chaussée a été envahi, je dirais entre guillemets, par un artiste qui s'appelle Sol Lewitt. Sol Lewitt est un grand artiste américain qui lui-même est pratiquement dans tous les musées du monde, et on peut d'ailleurs le voir à Beauvais, hein, dans ce musée à Beauvais, et également Alphée. Et puis vous pourrez y voir une cuisine avec ses oubliettes si vous avez le temps d'y passer quelques temps. Et donc ça, c'est amusant parce qu'il ne faut pas oublier que le donjon de V était un endroit essentiellement militaire et le seigneur avait pour mission de protéger les alentours et de protéger les villageois, raison pour laquelle ces remparts permettaient pendant l'attaque eh bien, d'avoir tous les villageois à l'intérieur et de l'intérieur évidemment de l'enceinte, et ce donjon était là pour effectivement repousser l'ennemi. Et lorsque l'on sait que c'est un donjon c'est presque une prison entre guillemets, raison pour laquelle il y avait ce qu'on appelle les oubliettes, parce qu'on lâchait carrément les ennemis dans une espèce de petite cave et puis on les oubliait, ce qui était absolument épouvantable. C'est les épouvantes de la guerre, mais aujourd'hui on ne fait pas mieux. On remarque en Ukraine, c'est insupportable, mais on est dans cette bizarrerie que, où en 2022 on fait encore la guerre. C'est absolument hallucinant. Enfin, c'est ainsi.
Alors, je vais préciser quand même deux choses pour les auditeurs. C'est que nous sommes par insert téléphonique, hein, vous n'êtes pas dans les studios de la radio, donc on vous joint par téléphone, et que nous nous quitterons plus tôt aujourd'hui, car vous avez un emploi du temps très chargé, et on ne fera pas une émission complète comme on a d'habitude. Oui. Voilà, je tiens à préciser quand même pour les auditeurs, si tout à l'heure ils écoutent et ils entendent de la musique, c'est que l'émission sera terminée. Monsieur Priès, on va parler quand même des cabanes d'architectes, puisque j'ai annoncé au départ qu'on était là pour parler d'un événement qui a lieu du 4 juin au 30 octobre, donc il est déjà commencé depuis quelques jours. Vous pouvez nous présenter ces cabanes d'architectes, pardon.
Tout à fait. Alors, une petite précision, c'est que l'ouverture au public se fait durant les week-ends au mois de juin, et à partir du 1er juillet, c'est tous les jours de 13h30 à 18h30, et ce jusqu'au 15 octobre. Et à partir du 15 octobre jusqu'à fin octobre, ce sera les week-ends. Alors, qu'est-ce que les cabanes d'architectes ? En fait, on a intitulé cette exposition cabanes d'architectes car il s'agit en fait soit de petite architecture, c'était une espèce de bijou, une espèce de folie comme on pouvait les rencontrer et les créer au XVIIIe siècle dans le cadre des jardins, ou alors des choses beaucoup plus monumentales pour certaines pièces, et je vous donnerai un peu plus de détails dans quelques instants, certaines pièces mesurent jusqu'à une dizaine de mètres de haut. Et ces cabanes, ça a un intérêt bien évident, à savoir que les artistes que nous avons présentés, qui sont des architectes, hein, on pourrait dire pratiquement ce sont des créateurs, hein, évidemment, l'architecture est de grand art, ces architectures sont là pour essayer de réfléchir un peu au concept de l'habitation. Le concept d'habitation, vous avez remarqué, est en train de changer. On passe du béton au bois et on essaie, en tout cas, de vivre plutôt dans des maisons que de vivre dans des immeubles, si certaines agglomérations le permettent. Et donc, ces architectes, qui sont essentiellement des architectes japonais, ont une faculté de s'adapter, je dirais, aux nouvelles normes, aux nouvelles données, ainsi qu'aux nouvelles aspirations des uns et des autres que nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez une grande architecture, par exemple, de Kenzo Kuma, vous verrez des architectures par Gildek, vous verrez des architectures par Fujimoto. Et ces architectes sont de la génération, vous avez tous entendu parler de la grande pyramide du Louvre, qui a été faite par Pei. Pei est un architecte japonais. Vous avez entendu parler de Frank Gehry, qui est lui qui a construit la fondation Vuitton à Paris, et puis d'autres qui ont construit la fondation Pinault. Ils sont généralement des architectes plutôt étrangers. Néanmoins, nos architectes français sont excellents, ils font partie de la cour des grands. Vous savez que Perrault a construit en particulier la grande bibliothèque à Paris, et que il s'agit évidemment d'un Français. Mais là, notre tendance est plutôt, parce que c'est ainsi, notre choix s'est orienté dans cette direction-là, avec des architectes plutôt étrangers. Alors, vous avez deux sortes d'architecture, vous allez voir. Et ce qui est intéressant, c'est en fait une exposition pour les grands et les petits. Vous allez voir, on a l'impression d'être des fourmis à côté du grand Kenzo Kuma et des géants à côté des maquettes qui sont dans la chapelle. Dans la chapelle, il y a à peu près une douzaine de maquettes, donc d'architectes. Ces maquettes sont sous des cloches en verre. Ça permet de voir des études sur des maisons qui pourraient être tout à fait construites, avec des cubes, avec surtout la végétation qui s'intègre parfaitement dans tous ces cubes. Et d'ailleurs, vous le voyez aujourd'hui, l'influence est très nette parce que sur certains immeubles, on commence à y installer un certain nombre de plantes, d'arbres.
Des murs végétalisés.
On les végétalise complètement. Et ça y est, on est parti dans cette direction et c'est plutôt bien parce que quand on a des jours de canicule comme aujourd'hui, respirer un peu de chlorophylle, ce n'est pas mauvais.
Alors, une grande partie est, donc, de ces cabanes, si j'ai bien compris, sont exposées dans le parc, et une partie, vous dites, à l'intérieur, dans la chapelle, c'est ça ? Mais les plus grandes œuvres sont à l'extérieur, dans le parc.
Voilà, les plus grandes sont à l'extérieur, bien évidemment, parce qu'on ne les a pas mis dans le cadre de l'enceinte, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de pièces aussi qui sont d'œuvres d'artistes qui sont installés depuis quelques années et qui sont installés soit prêtés par le musée Bordel, par exemple, oui. ou soit parce qu'aujourd'hui, ils sont la propriété du musée, donc sont installés, disséminés, soit dans l'enceinte ou à l'extérieur. Et là, ces pièces, les confrontées avec ces grands remparts et ces grandes murailles, je dirais, vous allez voir, c'est quelque chose qui en vaut la peine. Et évidemment, dans la chapelle, sur les trois étages, vous avez une quinzaine de maquettes qui vous permettent de regarder, comme je le disais, ces créations. Et vous avez au premier étage de la chapelle quelque chose qui est assez amusant. C'est une espèce de ballon qui est gonflé, ce qu'on appelle à l'hélium. Quand on dit l'hélium, parce que c'est extrêmement léger, c'est les fameux ballons qu'on achetait tous dans le cadre des fêtes. Les fêtes, ça va être bientôt le 14 juillet, donc on aura des ballons, et puis on a souvent des ballons aussi lorsqu'on est enfant. Ce ballon qui ressemble à une espèce de soucoupe ou une espèce de méduse, avec un grand voile blanc qui est installé et qui déborde pour former une sculpture qui est en une espèce d'organdi. Hein. L'organdi, c'est une mousseline de coton légère qui sert surtout à faire des robes, des corsages, etc., qu'on utilisait, extrêmement légère, extrêmement léger, d'ailleurs, d'organdi, je crois que c'est un nom masculin, extrêmement léger, et ça permet de créer une forme, et vous verrez ces espèces de ballons qui subliment la chapelle avec les vitraux de Daniel Buren, lequel a fait beaucoup parler de lui lorsque, au Palais Royal, il a viré les voitures. Il a eu raison. Il a eu entièrement raison au profit de ces colonnes qui, aujourd'hui, est une œuvre à part entière.
Donc, vous nous proposez un voyage dans l'architecture entre le médiéval représenté par le château et puis tout ce qui est exposé et qui fait partie des recherches actuelles dans l'architecture. Mais il faut dire que de toute façon, dans le château lui-même, il y avait des parties qui étaient quand même étonnantes, puisqu'il y a quand même une toiture qui est signée Eiffel aussi. Donc il y a toujours des confrontations dans votre donjon qui sont étonnantes entre le médiéval et, je dirais, le plus actuel pour... le plus moderne, le plus, je dirais, dans l'air du temps, quoi.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, une structure comme celle-ci, hein, parce que c'est une structure qui est un petit peu austère, lorsqu'on voit des remparts, lorsqu'on voit un donjon, lorsqu'on voit une chapelle, néanmoins, accepte volontiers un mélange et je dirais, tout un, une histoire de l'histoire qui se propage depuis quelques années, depuis plusieurs siècles, pour arriver à des créations d'aujourd'hui. Et à chaque fois, le mariage, en quelque sorte, est assez heureux. Et ça en vaut la peine pour cette raison-là. Et puis, vous verrez aussi dans certaines maquettes dans la chapelle qui ont été ce qu'on appelle revisitées par des artistes. Quand on dit revisité, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on a ajouté, par exemple, des artistes s'appellent la fratrie, ils ont ajouté sous une structure qui est à l'extérieur, ils ont ajouté une petite plateforme, en quelque sorte, pour montrer qu'il s'agissait d'une île et qu'on pouvait utiliser cette structure comme étant quelque chose qui va dans le rêve.
Alors, je pense que il va y avoir. Vous avez déjà beaucoup de visites, je suppose, déjà.
Oui, je dirais que l'exposition paraît appréciée, sincèrement, parce qu'elle est, à la fois étonnante et puis à la fois, elle intéresse les grands et les petits. Les grands sont là pour découvrir la confrontation entre les uns et les autres, qu'on connaisse ou pas l'architecture, ça n'a aucune espèce d'importance, c'est de voir et puis d'être étonné et de s'interroger un peu sur le devenir de nos maisons, de nos campagnes et de nos villes.
Oui, la cabane fait toujours rêver, depuis qu'on est petit en principe, mais on continue même adulte à rêver de la cabane.
D'ailleurs, vous verrez également, j'avais oublié de le noter, que nous présentons trois cabanes qui s'appellent en fait des nids comme des nids d'oiseaux, qui sont exécutés par un artiste qui s'appelle Tadeshi Kawamata, et qui sont ont été reconstruits il n'y a pas très longtemps par cet artiste qui est venu passer quelques jours et qui ponctue notre parcours de sculpture avec ces espèces de cabanes dans les arbres qui sont là pour nous faire rêver et pour nous dire que finalement on peut être pratiquement au-dessus des arbres dans ce qu'on appelle la canopée et pour admirer le monde qui nous entoure.
Oui, j'ai l'impression, puisque j'en ai une photo là sous les yeux, que c'est vraiment très haut. Elles sont au moins à 30 mètres, là, quelque chose comme ça.
Oui, à peu près, oui. Elles sont à peu près à 25-30 mètres. Oui,
elles sont absolument impressionnantes. On dirait qu'elles tiennent sur deux fûts. Mais quand on regarde comme ça, on a envie de dire, mais comment on monte là-haut?
Oui, alors, justement, l'artiste souhaite qu'on les regarde, qu'on les admire, qu'on se pose des questions, mais ne souhaite absolument pas que l'on monte dans ces cabanes. elles sont, si vous voulez, dans notre imaginaire.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on a envie, de monter, mais on ne peut pas.
Oui, rien que quand on voit l'image, on a envie de monter, là.
Et justement, M. Briès, les artistes, vous les avez invités à venir découvrir le donjon de V?
Certains, oui, comme Tadeshi Kawamata était devenu il y a une quinzaine d'années. Là, il nous a restauré les cabanes. Oui, absolument, oui, tout à fait. Pas tous, mais Tadeshi Kawamata en particulier. Kenzo Kuma n'est jamais venu. Vous avez Sujimoto. Vous avez un certain nombre d'artistes qui sont venus soit installer des pièces qui sont maintenant pérennes, et dans le cadre de l'exposition, certains sont venus, certains artistes, d'autres non, bien évidemment, comme toujours.
D'accord. Est-ce que vous allez organiser des visites guidées ou pas? Est-ce que c'est prévu?
Alors, les visites, vous avez deux choses formidables. À l'intérieur de la chapelle, vous avez une petite, sur un écran, une petite visite historique. Et ça, c'est la première chose. Après, lorsque vous sortez de la billetterie, vous avez un QR code qui vous permet d'écouter sur votre portable soit toute l'histoire de cette exposition avec les significations de certaines pièces, le pourquoi et le comment. Vous avez également, dans le cadre de cette écoute possible, toutes les sculptures qui sont expliquées. Et puis, ça c'est pour les, je dirais, pour le parcours quand vous êtes seul. Et puis, vous avez deux visites guidées du donjon à 15h30 et à 17h30. Vous avez une visite guidée par une personne qui est là pour vous montrer le rez-de-chaussée et le premier étage. Donc vous avez une visite avec un choix multiple et ça vous permet de passer un moment merveilleux et un moment qui est vraiment délicieux.
Alors, vous avez prévu peut-être des visites avec des écoles. Bon, là, ça va être les vacances scolaires dans très peu de temps. Mais comme il y a encore septembre et octobre, est-ce que c'est une éventualité de pouvoir faire venir des classes, comme vous avez parlé de jeunesse et tout, voilà.
Ah, tout à fait, ça, c'est une éventualité. En fait, on sait qu'aujourd'hui, les choses sont un peu plus compliquées. C'était assez amusant parce que quand on a commencé ces expositions, on avait énormément de classes qui venaient, énormément d'enfants qui venaient. Et depuis quelques années, c'est un peu plus difficile parce que je crois des problèmes de crédit, entre autres, ou des problèmes de bus, ou des problèmes divers et variés, font que j'ai l'impression que, et ça ne dépend pas des maîtres d'école, mais je crois que ça dépend en fait des ordres de l'académie, délaisse un petit peu ce genre d'initiative, ce qui est un petit peu dommage parce que je crois que lorsqu'on étudie un petit peu l'histoire, ou en tout cas quand on a un petit peu de souvenirs, on n'est pas obligé d'étudier d'ailleurs, mais lorsqu'on visite, on a toujours ça dans l'esprit, ça nous fait rêver, et on a besoin de rêve en permanence.
Mmh. Oui, c'est important de rêver, oui, tout à fait, oui.
Ah oui, oui.
Et donc là, M. Brieste, vous participez-vous un petit peu aux visites ou pas? Ou vous laissez à d'autres personnes?
Non, mais moi ça m'arrive de faire visiter très fréquemment. Je sais par exemple demain matin, je serai vers 9h30, j'ai un groupe d'une vingtaine de personnes qui viennent visiter. Je ferai cette visite en personne, bien évidemment. Ça, c'est toujours un vrai plaisir.
Voilà. Et je pense qu'au niveau logistique, ça a dû quand même être une sacrée organisation, parce que pour faire venir des œuvres aussi volumineuses, ça demande une organisation quand même assez importante.
Oui, alors tout à fait. Et c'est un vrai souci, mais on a eu quelques grues, quelques...
Oui.
Le Manitou.
Oui, pour les mettre à 30 mètres, il faut quand même un peu de matériel. Hein.
Il faut un petit peu de matériel, mais on a l'habitude parce que dans le cadre de mon métier, on transporte, je ne sais pas, à peu près l'équivalent de 40 000 œuvres d'art par an.
Donc
les transporteurs, on connaît, on s'est monté, on s'est démonté. On a une vraie, on a un petit savoir-faire autour de ça.
Alors, M. Brieste, on avait prévu de rester 30 minutes avec vous. On y arrive, là, bientôt. Y a-t-il des messages à passer aux auditeurs qui vous écoutent?
Non, ben, le message, c'est de leur dire de venir, de passer un bon moment dans le parc, et le parc est tout à fait ouvert à tout le monde, de manière gratuite, et effectivement, en revanche, dans le cadre de l'enceinte, là, il y a une petite contribution qui permet d'organiser ces expositions, et qui permet de voir avec beaucoup de plaisir et d'explication tout ce que vous pourrez retenir et tout ce que vous aurez dans votre esprit dans quelques années encore, lorsque vous aurez fait cette visite.
Et en plus, avec les chaleurs qu'on a en ce moment, le donjon, il va nous rafraîchir un petit peu. Pas que la mémoire, voilà.
On a quelques arbres qui nous permettent de passer un moment à l'ombre, et ça, c'est plutôt très agréable.
Oui. D'ailleurs, on peut vous remercier d'ouvrir ce lieu-là au public, parce que très souvent, des lieux comme ça sont fermés, et c'est un peu dommage. C'est vraiment une richesse locale, et on ne peut que encourager tous nos auditeurs à se rendre à votre exposition. En tout cas, moi, j'ai le souvenir d'au moins 5 ou 6 autres très anciennes, et je n'ai que de bons souvenirs. Et puis, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir flâner dans le parc et autour. D'autant qu'en plus, je sais qu'il y a quelques années, vous avez fait pas mal de... Vous avez fait tout un circuit autour du château. Vous aviez tout aménagé.
Oui, alors il y a un aménagement qui permet de se garer dans la petite vallée qui est à 600-700 mètres, permet de déambuler, je dirais, dans le cadre d'un petit chemin qui est parfaitement balisé, qui est parfaitement... on peut marcher très, très agréablement, très confortablement autour du donjon et d'arriver enfin dans le cadre de l'entrée, qui est entouré de douves qu'on appelle sèches, c'est-à-dire des douves, généralement, c'est avec de l'eau, tandis que là, il n'y a pas d'eau compte tenu de la déclivité du terrain, mais en revanche, qui étaient des éléments de protection à l'époque, au XIIIe et XIVe siècle. Donc c'est assez séduisant de voir le donjon qui a à peu près une trentaine de mètres de haut, d'être au pied de ce donjon et de voir les gargouilles, de voir les machicoulis, de voir ces éléments architecturaux aujourd'hui qui sont des éléments de plaisir, alors qu'il y a quelques années, enfin quelques centaines d'années, c'était des éléments de défense qui permettaient aux uns et aux autres, en tout cas, de se défendre contre les envahisseurs.
Mais merci, on va conclure de cette manière. On avait un choix musical de votre part, donc Eric Satie. Je vais voir avec mon collègue Luc si on peut le passer un petit.
J'aime beaucoup Eric Satie, effectivement.
Donc on va essayer de le passer pendant cette fin d'émission. Donc on rappelle que l'émission est un peu plus courte que d'habitude parce que Monsieur Briest a un emploi du temps très chargé. En tout cas, on vous remercie d'avoir consacré un peu de temps pour la radio par un certain téléphonique. Et quand on vous verra, on vous remettra un diplôme d'émancipation radiophonique, qui est contemporain.
Merci,
voilà. Merci à vous.
Donc, à très bientôt.
À très bientôt.
Merci à tous les auditeurs. Et puis on sera ravis de vous accueillir très prochainement.
Voilà, et on vous fait un petit clin d'œil en musique. À bientôt, oui, Monsieur Briest. Merci beaucoup.
À bientôt. Au revoir, cher monsieur.
Voilà, un petit extrait d'Eric Satie, donc la musique choisie par M. Francis Briest. Juste une petite annonce, André, si tu es là la semaine prochaine. Oui. Nous avons déjà notre invité qui est prévu. Ça sera le comité des fêtes de Nanteuil-Audouin.
Oui.
Qui viendra nous parler d'une course de voitures à pédales.
Ah bon, on en a une ici.
Qui aura lieu le dimanche 3 juillet 2022. Ah, mais elle n'est pas à pédale, la nôtre, ici. Hein.
Ah oui, c'est vrai.
C'est une caisse
vrai.
À savon, c'est pas
oui,
pareil,
c'est vrai,
attention.
C'est vrai.
Là, il y a des pédales, donc voilà.
Oui.
Donc, ça sera une organisation, une animation festive et sportive sur la commune de Nanteuil, donc qui s'appellera le Trophée du Valois, une manche du championnat de France des courses de voitures à pédales. Carrément une manche du championnat de France.
Ah, dites donc.
Ça rigole pas.
Ah ben non,
donc,
ça rigole
auditeurs,
pas.
Soyez au rendez-vous la semaine prochaine entre 19h et 20h avec le comité des fêtes de Nanteuil-Audouin.
Je m'entraîne.
Voilà. Rediffusion de l'émission donc le dimanche à partir de 16h et le mardi à 10h. Bonne écoute sur RVM 93.7. Luc, à toi de la main.
C'était une émission de la rédaction de RVM.